Madame Janine Mabunda-Lioko Mugiai est une manager. Elle va totaliser seulement 2 mois au ministère du portefeuille. Elle a accepté notre invitation. Nous lui disons merci et bienvenue.
Merci. Merci de m'accueillir.
On vous présente brièvement auprès des auditeurs. Vous avez une licence spéciale en sciences commerciales et une autre en droit commercial. Vous avez fait toutes ces études en Belgique, même l'école primaire?
Oui, même l'école primaire. Mes gardiennes, je les ai faites ici jusqu'à l'âge de 5 ans et puis j'ai commencé la première primaire en Belgique.
Oui, c'était une bourse c'est la famille qui était installée là-bas?
Non, mon père était boursier et voulait parfaire ses études, donc avoir un cycle universitaire, et donc il nous a emmenés avec lui.
Donc vous êtes née à Kinshasa et vous parlez couramment les Lingala?
Oui, je suis née à Kinshasa, je suis de la province de l'Équateur, plus particulièrement du territoire de Bumba, par mon père et par ma mère. Je suis encore de l'Équateur, Mukula, voilà.
Voilà, pas d'autres langues nationales?
Non, Naza Mongala, donc je parle Lingala.
D'accord, et les langues étrangères, le français sûrement?
Le français, le néerlandais et l'anglais.
Le grand témoin.
Grand témoin qui s'entretient avec Janine Mabunda-Lioko Mugiai, ministre du portefeuille. Fini les études alors madame, votre carrière professionnelle commence dans une institution bancaire, la Citibank.
Oui, tout à fait, c'est exact. Je suis rentrée en 88, munie de mes 2 diplômes. À l'époque, c'est vrai que les Congolais n'aimaient pas trop rentrer au Congo, ils avaient beaucoup d'appréhension, mais moi je dois dire que j'ai eu de la chance, Dieu aidant, parce qu'à ce moment-là, cette banque voulait en fait promouvoir le travail des femmes, et donc j'ai été une des premières dames engagées à la Citibank. J'ai commencé comme stagiaire, et puis j'ai été gestionnaire de compte, donc relations commerciales avec la clientèle. J'ai fait de l'analyse crédit, j'ai fait aussi du swap de dette, donc on revendait la dette congolaise sur des marchés boursiers à Londres, et j'ai travaillé là 5 ans.
Et puis, vous passez 2 ans ailleurs avant d'être conseillère au cabinet du gouverneur de la Banque centrale. C'est dire que le franc congolais vous connaît un peu.
Tout à fait. 2 ans ailleurs, en fait, après avoir quitté la Citibank, et c'est tout à fait normal, tous les jeunes gens connaissent ça, vos clients vous connaissent, ils vous apprécient, donc ils vous débauchent. C'est ce qui a été mon cas. J'ai travaillé comme directeur commercial chez Assist, donc dans le secteur informatique. J'ai eu à réhabiliter, ou en tout cas à assainir le portefeuille client, et à mettre en place des procédures comptables un peu plus transparentes pour calculer les revenus commerciaux. Après ça, effectivement, après une petite pause, j'ai travaillé comme conseiller au cabinet du gouverneur de la Banque centrale de 1997 à 2002. Donc effectivement, j'ai eu la chance et le privilège d'assister à une réforme réussie du franc congolais en 1998.
Avant d'être au ministère du portefeuille, vous avez été administrateur délégué général du fonds de promotion de l'industrie. Quelle réalisation là-bas?
Au fonds de promotion de l'industrie, je pense que c'est une réalisation en équipe. D'abord, j'aimerais beaucoup insister là-dessus. Le fonds de promotion de l'industrie, en 2002, avait connu un incendie. Donc, tout était délabré. Les procédures crédit avaient disparu. Il n'y avait pas de manuel de procédure. Il n'y avait pas de visibilité de l'entreprise. Et mon travail a été, en fait, d'assainir les comptes, de diminuer les déficits, de mettre en place des procédures de crédit, d'avoir une approche plus commerciale. Parce qu'en fait, le fonds de promotion de l'industrie, c'est une banque de développement. C'est la seule qui nous est restée après l'échec de la BCA, la BCCE, et elle est vraiment tournée et dédiée pour et vers les opérateurs économiques congolais, qui payent des taxes assez conséquentes, un budget annuel de 20 millions de dollars, et donc mon travail, c'était de rendre confiance au secteur privé en disant, mais c'est vous qui cotisez, donc c'est vous qui avez droit en priorité à avoir accès au crédit, et donc c'est ce qu'on a fait dans le cadre de notre mandat au SPI.
Voilà les réalisations, et depuis le 5 février, vous êtes au ministère du portefeuille, comment vous y êtes arrivé?
Bon, il faut poser la question à ceux qui m'ont nommé, c'est pas moi qui peux vous répondre sur la façon dont on y arrive. Je crois qu'on ne se prédestine pas à des fonctions, c'est un concours de circonstances, c'est un parcours et un CV.
Alors quittons un peu à ces studios de Radio Capi, notre confrère Alain Hirong nous propose de faire un tour dans votre cabinet.
Allô? C'est le portable du garde-corps de Madame la ministre du portefeuille qui vient de sonner. Il est 10h10 lorsque celui-ci s'installe sur une chaise à côté de l'entrée du cabinet au 3e niveau de ce ministère. L'on nous renseigne que Madame la ministre était déjà dans son bureau. En même temps, dans les couloirs, on sent une certaine agitation. Un arriver à 10h au bureau. C'est un peu tard, non? Mais très vite, la réponse nous est donnée. Madame Shuna Lomponda de la cellule de communication, en fait, la seule personne autorisée à nous accorder une quelconque interview, explique.
En tout cas, ce n'est pas une personne que vous surprendrez à rester dans le bureau. Parce que de par l'exercice de ses fonctions, elle doit aller vers ses autres entreprises, elle doit être à l'extérieur et comment se faire une idée précise et réelle des problèmes qui peuvent se poser s'ils ont d'aller sur le terrain. Et c'est une personne qui est vraiment une femme de terrain.
En faisant un petit tour dans les couloirs du troisième niveau du ministère du portefeuille, nous rencontrons une dame de protocole. Elle refuse de nous donner ses impressions sur la ministre et disparaît rapidement dans l'un des bureaux. Mais Madame Shuna Lomponda, la seule qui est autorisée à nous parler, n'hésite pas à nous donner ses impressions sur Madame la ministre du portefeuille.
C'est une personne travailleuse, rigoureuse et discrète. Mais entendons-nous bien, quand je dis discrète, c'est pas dans le sens péjoratif. Notre ministre du portefeuille n'est pas une personne que vous apprendrez à parler sans rien dire, à se montrer pour ne pas agir.
Nous réussissons enfin à aborder un huissier qui s'occupe de la propreté. Il nous révèle être l'un des plus anciens travailleurs de ce ministère. Il se dit très heureux de travailler pour la première fois avec un ministre femme après près de 30 ans de carrière. Pour lui, la ministre est très sensible à la propreté. Néanmoins, il souhaiterait disposer d'un aspirateur pour lui faciliter l'entretien des bureaux. Il nous avoue avec regret qu'il y a plus de 15 ans que le ministère ne dispose plus d'un aspirateur.
Ouais, c'est que le ministère des portefeuilles, c'est un grand ministère, il n'y a pas d'aspirateur. Donc, parlons de la maison, c'est une maison que vous venez de retrouver, ça fait déjà 2 mois. Mais qu'est-ce que vous comptez d'abord faire pour la maison et vos collaborateurs?
En tout cas, c'est une question que j'apprécie beaucoup et j'apprécie aussi la franchise, en tout cas, du balayeur, parce que c'est eux qui voient tout, qui voient les gens passer. Et c'est vrai que c'est un très beau bâtiment de style colonial qui donne toute la dimension de l'envergure que devrait avoir le portefeuille de l'État. Mais moi aussi, j'ai déploré, après mon beau bâtiment du FPI qu'on a construit, toute l'équipe du FPI ensemble, j'ai déploré un peu l'état de désuétude et de détérioration dans laquelle était ce bâtiment. Et un de mes objectifs, c'est de voir avec quel revenu, avec quelle prise en charge financière, je pourrais en tout cas réhabiliter le bâtiment ou le rafraîchir, parce que je ne pense pas qu'on peut travailler à des décisions qui ont un impact majeur au niveau de la vie nationale sans que nos agents, qui sont quand même au nombre de 260 au ministère du portefeuille, soient dans de bonnes conditions. Je vous signale que j'ai visité moi-même le bâtiment et j'ai été voir dans quelles conditions nos travailleurs, nos agents exécutent leurs tâches. C'est très difficile. Et je pense qu'il faut avoir de l'ambition pour ce pays, de l'ambition pour le gouvernement, de l'ambition pour les ministères, parce que c'est de là que viennent les politiques, et on ne peut pas s'attendre à ce qu'un travail de qualité soit fait dans des conditions logistiques pas très positives. Donc on est en train de travailler là-dessus, c'est Mme Scola Maindo dans notre cabinet qui a pour charge d'essayer de concevoir un projet de rafraîchissement et de voir si on peut trouver des partenaires, des bailleurs publics ou privés, et l'État nécessairement, pour redorer un petit peu ce bâtiment qui en vaut la peine.
Le grand témoin.
Grand témoin aujourd'hui avec Jeannine Mabunda, ministre du portefeuille. Le portefeuille de l'État congolais est constitué de 55 entreprises publiques. À cela s'ajoutent des participations de l'État dans 64 sociétés privées. Et c'est plus de 87 000 Congolais qui sont employés par ces entreprises. Alors parmi eux, beaucoup de mécontents. C'est le cas des ceux de la Société nationale de chemin de fer du Congo. Ils ont plusieurs grèves depuis les débuts de l'année. Le lundi 26 mars dernier, ils étaient dans la rue pour soutenir ceux de leurs camarades qui avaient été suspendus par le comité de gestion et bien d'autres préoccupations. Alors un reportage de Paul Kaboba.
Ils étaient près d'un millier à marcher dans les rues de Lubumbashi. Destination finale, le bâtiment du 3 juin, siège du Parlement provincial. Il y a 15 jours, tout au début de la grève, c'est encore là qu'ils avaient déposé leur doléance. Les revendications de départ n'ont pas changé. Pour eux, c'est le taux du jour dans le calcul de la paye ou rien. Il n'y a pas de marché où nous pouvons trouver un taux de 40 ou 30 francs congolais pour $1. Il n'y a pas d'école où nous payons avec un taux préférentiel. Nos loyers, nous les payons au taux officiel. Pourquoi nous, on nous paye avec un taux réduit? Je donne un exemple. Si vous vendez une bougie à 100 francs, là, je vous donne 50 francs. Pourrais-je acheter allumer cette bougie ou non. Mais ce lundi, ils ont aussi marché pour sauver l'emploi de près de 7 de leurs camarades qui sont renvoyés pour incitation à la grève. Ils réclament aussi la levée de la suspension de 15 travailleurs et de 2 syndicalistes. Pour tout Rokumoza, président du bureau de l'Assemblée provinciale, il y a un problème. Le syndicat ayant signé cet accord en lieu de tous les travailleurs. Il a promis néanmoins que les députés provinciaux tenteront d'apporter des solutions à ce problème. Entre temps, il souhaite que le dialogue continue entre l'employeur et les syndicats. Aucun membre du comité de gestion n'a répondu aux appels de Radio Okapi de Lubumbashi. Lubumbashi, Paul Kaboba, Radio Okapi.
Voilà, les travailleurs de la SNCC ont quand même repris le travail, mais Madame Janine Mabunda, est-ce que le problème est résolu?
Je pense que ce n'est pas un problème facile. La SNCC a connu quelques grèves. Il y a parfois des tensions sociales ou des difficultés de compréhension entre les gestionnaires et les syndicats au sein des entreprises publiques, parce que finalement, les premières personnes à subir les contre-coups d'une mauvaise gestion au sommet, ce sont les petits travailleurs. Donc je comprends tout à fait l'insatisfaction des travailleurs de la SNCC, mais je sais aussi qu'ils ont en face d'eux une équipe responsable, une nouvelle équipe de comité de gestion intérimaire qui a remplacé une autre dont justement la gestion avait posé problème. Je sais aussi qu'au niveau du conseil d'administration, ils ont un PCA, M. Senga, que j'ai reçu dès les premiers jours de mon mandat, parce qu'effectivement, j'essaie de connaître les entreprises autrement que par les rapports qu'on m'envoie à distance, parce que le contact personnel est important. C'est une méthode que je privilégie et que j'utilise au niveau des mandataires, et donc je la leur recommande dans le dialogue avec le syndicat. Moi-même, comme je vous l'ai dit, je viens du secteur des entreprises publiques. Ce n'est pas facile parce que d'un côté, vous avez des conventions collectives héritées des années 60-70 qui étaient des périodes très riches pour les entreprises publiques. Et de l'autre, vous avez des entreprises publiques qui, au fil du temps, ont perdu de leur richesse et ne savent plus faire face aux engagements. On va trouver une solution.
Alors, la descente sur terrain, ça fait 2 mois que vous êtes là. Est-ce que vous avez organisé des missions, aller sur terrain, vous enquérir de ce qui se passe sur terrain et parler aussi avec les travailleurs pour ces contacts?
Bien sûr. Je dois d'abord dire une chose. Nous avons pris nos fonctions au ministère du portefeuille après l'adoption du programme gouvernement, c'est-à-dire le 27 février.
C'est pas deux mois full,
c'est un mois. Mais ce que nous avons déjà fait, je suis allée visiter certaines entreprises publiques présentes à Kinshasa. Je suis aussi allée dans certaines entreprises d'économie mixte, notamment à la CEP, tout juste au lendemain des événements malheureux où des milices ont, disons, porté atteinte à la sécurité, donc surtout aux richesses qui se trouvent propulsées au travers des entreprises. Donc je fais ce travail-là. Pour le Katanga, il est prévu la semaine, avant la mi-avril en tout cas, que je puisse me rendre spécialement en ce qui concerne la SNCC, la Sodmico, la GKMIN et quelques entreprises d'économie mixte. Mais je pense que je ne vais pas me limiter au Katanga. Il est nécessaire aussi de se rendre au Bas-Congo où se trouvent les RVM et l'Onatra et qui ont un impact important dans la vie des Congolais.
Le grand témoin.
Voilà, nous nous rendons maintenant dans le Kasaï occidental avec une question d'un travailleur qui est dans une entreprise publique.
Voilà, je réponds au nom des EBD Mabala, je suis à Kananga. Ma question envers Madame la ministre est-il de savoir quelle est la suite réservée à nos agents de la régie des eaux qui accusent maintenant 45 mois d'arriéré des salaires. Est-ce qu'avec le gouvernement actuel, y a-t-il de l'espoir pour sortir la régie des eaux dans cette crise?
Madame, ce sont quand même vos collaborateurs lointains et le problème est presque le même dans toutes les entreprises.
Non, justement, et c'est pour ça qu'il ne faut pas désespérer. Je ne crois pas qu'il y ait une fatalité dans l'impaiement des salaires des travailleurs dans les entreprises publiques. Je pense que dans certaines sociétés, c'est vrai, c'est difficile et ne génère pas suffisamment de revenus. Dans d'autres, il faut avoir le courage de le dire parce que tout en étant le patron des mandataires, je suis aussi le représentant de l'État qui veille en tout cas à ce que tous les Congolais puissent s'épanouir dans les activités professionnelles qu'ils exercent. Donc s'il y a 45 mois d'impayés à la régie des eaux à Kananga, il faudrait qu'on interroge la direction générale à Kinshasa pour savoir comment cela peut se faire puisque par ailleurs des factures sont payées tant à la SNEL qu'à la régie des eaux et ailleurs. Donc là justement je pense qu'il y a un devoir de responsabilité vis-à-vis des équipes de gestion, mais je ne veux pas non plus faire preuve de démagogie parce que c'est une information que vous venez de me donner. Je n'en étais en tout cas pas informée. 45 mois à la régie des eaux, ça me semble bizarre. et j'aimerais en tout cas, et je vais être le porte-parole de cet agent de la régie des eaux Kananga auprès des autorités qui ont compétence avant moi, parce que les entreprises publiques ont autonomie de gestion, il n'y a pas d'interférence à faire, mais je vais en tout cas être leur ambassadeur auprès de l'équipe de gestion de la régie des eaux.
Alors une autre question, mais cette fois-ci de Kisangani.
Je m'appelle Madame Lili Nyangoma, je suis l'agent à l'ONATRA, je suis à Kisangani. Madame la ministre, à votre qualité de ministre de portefeuille, quelles mesures envisagez-vous pour financer la relance des activités dans le domaine des transports fluviaux à l'ONATRA pour autant que tous les matériels portuaires soient dans un état de vétusté avancé qui occasionne une incidence négative sur la production dans notre province.
Voilà, ça c'est la question de Kisangani, mais je crois qu'il y a quand même des tutelles au ministère de l'ONATRA, il y a aussi le ministère de Transport, mais est-ce que vous trouvez aussi votre part de responsabilité dans cette question?
Bien sûr, nous avons tous notre part de responsabilité, puisque le portefeuille gère les entreprises publiques. Et ce qui me touche beaucoup, ce qui m'impressionne aussi, c'est pour dire que les Congolais ont du talent, de l'intelligence, du savoir-faire et de la volonté au travail, c'est que voilà une dame, ce qui est rare d'ailleurs dans les entreprises publiques, voilà une dame qui pose en français, mais elle pourrait le faire en swahili, une question de fond. Elle dit, l'ONATRA est un fer de lance important de l'économie congolaise. Quelles sont les mesures qui sont prévues pour ressortir ou pour redynamiser l'ONATRA? Elle vient de vous poser dans son langage la question de la réforme des entreprises publiques.
Donc, oui, c'est une réforme qui est entamée, ça fait déjà 3 ans, je crois, et où est-ce qu'on en est?
Je pense qu'il y a 2 choses qu'il faut savoir. C'est vrai qu'on attaque beaucoup le comité de pilotage de réforme des entreprises publiques, mais il faut savoir que ce n'est qu'un organe du ministère du portefeuille. Il revient au ministre du portefeuille, et là la responsabilité est plutôt de mes prédécesseurs, de vendre en fait la réforme à leurs collègues des autres ministères, tutelle technique, ministère à caractère économique, et donc gouvernement. Il faut savoir, et vous l'avez vu dans le programme du gouvernement, le premier ministre Gizenga, sous l'impulsion du chef de l'État, a mis en tout cas comme priorité la réforme des entreprises publiques, donc je pense que la dame de Kisangani aura une réponse concrète, je l'espère, entre la fin du mois de juin et le 30 septembre.
Le grand témoin.
Et la réforme des entreprises publiques, puisqu'on y est, ça veut dire quoi au juste? C'est la privatisation, c'est-à-dire que l'État va cesser d'être l'État gendarme dans les entreprises. En fait, à quoi on veut arriver?
En fait, en simple, on pense, après avoir vu d'autres pays et aussi avoir connu d'autres expériences dans les années 60 ici en matière de SNEL et de régie des eaux, qu'il y a moyen de donner de meilleurs services aux Congolais. Il y a moyen d'avoir plus de courant, une eau de meilleure qualité, des ports qui fonctionnent, et ainsi de suite, comme on l'a dit précédemment pour l'ONATRA, la régie des eaux et d'autres. Donc la réforme des entreprises publiques, c'est de dire, voilà, l'État estime que quand lui gère d'une certaine façon les entreprises publiques, il n'est pas arrivé à donner à ces entreprises publiques toutes les performances dont elles sont capables. Donc aujourd'hui, il dit, je change les règles du jeu, au lieu d'être moi-même celui qui anime, celui qui gère, celui qui donne les directives, je reste l'État propriétaire en mettant un cadre légal et des règles du jeu qui permettent de faire, disons, d'envisager de nouveaux scénarios de gestion, sans nécessairement passer par la privatisation.
Mais madame, les règles dont il est question, ce sont des lois. En même temps, il faut garantir aux investisseurs, à tous les chefs d'entreprise, qu'il y ait quand même une protection, une sécurité judiciaire. Est-ce que tout cela est fait? Vous préparez déjà des lois que vous aurez à soumettre au Parlement?
En tout cas, ce que je peux dire, parce que je ne suis pas une femme de slogan ni de promesses en l'air, mais ce que je peux dire par rapport à la réforme des entreprises publiques, c'est que c'est vrai que ça a commencé depuis 3 ans, mais il y a des résultats. Vous avez suivi, et j'ai apprécié l'échange très franc, même si ce n'était pas toujours facile, que nous avons eu sur le dossier de la GECAMINE. La GECAMINE est un exemple de réforme. Aujourd'hui, la GECAMINE, en 2004, la GECAMINE, je crois, avait produit 18 000 tonnes, difficilement de cuivre. En 2006, la GECAMINE a produit 26 000 tonnes. Les charges salariales salariale qui représente 4 à 5 millions de dollars par mois sont payées, il n'y a plus d'impaiement, et donc ça, ce sont des faits concrets. C'est ça la réforme. Aujourd'hui, la GECAMINE est gérée par des équipes mixtes, des gens qui viennent de l'étranger qui ont une expérience internationale en matière de mines, et puis nos Congolais qui ont eux aussi une expérience de terrain qui est nécessaire pour conduire ensemble des réformes dans les entreprises. Donc c'est en action, c'est un cas concret que je cite, et je pense que nous allons voir le même genre de démarche peut-être dans certains secteurs. Je l'ai dit, ce sont les secteurs des mines, de l'énergie, du transport, de la communication et des finances. Voilà un peu pour dire l'essentiel.
L'autre question qu'on pourrait poser, c'est de savoir quelle stratégie appliquer pour que les entreprises publiques donnent beaucoup de moyens à l'État à travers les taxes et les impôts.
La stratégie, elle est assez simple, et je remercie beaucoup vraiment Radio Okapi de m'avoir permis d'expliquer ça, parce que ça concerne en fait tous les Congolais. Parce qu'en fait, les entreprises publiques, c'est notre richesse nationale. C'est d'ailleurs ce qui est montré sur certains billets de banque de la Banque centrale. Et nous avons un patrimoine dans les entreprises publiques. On l'a dit, 55 entreprises publiques, 64 économies mixtes. Tout le monde, en fait, connaît les entreprises publiques ou les sociétés d'économie mixte sans savoir qu'elles dépendent du portefeuille. C'est le Grand Hôtel de Kinshasa. Ça, c'est l'Hôtel Carabia, c'est la BCDC où l'État est actionnaire, c'est l'ONATRA, la Régie des Eaux, la SNEL. Donc la stratégie, quelle est-elle? La stratégie, d'abord, plus de transparence. Plus de transparence dans le mode de gestion. Donc dans la façon de diriger les entreprises publiques, il faut que les nouveaux animateurs nous donnent des informations, parce que c'est le droit de tous les Congolais, puisqu'ils payent des impôts, de savoir ce que les mandataires et l'État, au travers des mandataires, font dans les entreprises publiques. Plus d'informations, mais aussi une réforme. Cette réforme a été acceptée dans le cadre du gouvernement précédent, mais c'est tellement important par rapport à la vie économique du pays, par rapport aux richesses et au patrimoine qui sont en jeu au travers de ces entreprises, que le président de la République a estimé qu'il fallait attendre un gouvernement légitime pour pouvoir poser le débat de fond sur ce que nous voulons faire pour les entreprises publiques. Comment les rendre plus performantes, comment peuvent-elles créer plus de richesses, plus d'emplois, et comment est-ce qu'elles peuvent mieux servir la population congolaise en eau, en électricité, en route, etc., etc. Tout ce qui fait partie du quotidien des Congolais. Donc la stratégie, c'est la suivante. Il y a quatre lois qui s'appellent les quatre lois relatives aux réformes des entreprises publiques. Ces lois doivent être examinées par le gouvernement. Et une fois que ces lois sont examinées par le gouvernement, qui va se prononcer sur un choix politique, je dirais, par rapport à la stratégie dans le ministère du portefeuille. Une fois que le gouvernement, sous la coordination du Premier ministre Gizenga, donne son feu vert pour le choix de stratégie à avoir au niveau des entreprises publiques, nous présenterons ces quatre lois devant le Parlement, puisque le Parlement représente toute la nation congolaise. Donc ces quatre lois, en résumé, je ne voudrais pas être trop technique, mais c'est des lois qui disent ceci. 1. Nous savons que les entreprises publiques ont des problèmes, elles n'ont pas d'argent pour se développer, il y a eu une accumulation de dysfonctionnements qui sont parfois liés au management, parfois liés à la vétusté d'outils de production, et nous voulons, pour répondre aux besoins de la population qui sont immenses dans des secteurs élémentaires qui sont conduits en monopole par certaines entreprises publiques, nous voulons voir un changement. Nous voulons voir un changement, donc nous disons, l'État n'interviendra plus dans toutes les entreprises publiques, il va séparer, il va se désengager du secteur des entreprises publiques et permettre la concurrence et la libéralisation. Je n'ai pas dit la privatisation. L'État se désengageant, il va dire désormais, puisque je ne suis plus l'acteur ou l'actionnaire majeur, je considère qu'il y a deux types d'entreprises. Il y a les entreprises qui peuvent devenir des sociétés marchandes. C'est le cas de la SNEL, de la Régie des Eaux, de l'ONATRA par exemple. Il y a d'autres entreprises qui sont tellement particulières, soit elles sont stratégiques, soit elles délivrent des services qui relèvent des services publics, au point qu'on ne peut pas, aujourd'hui en tout cas, les confier à des privés. Ce sont des entreprises comme le Fonds de promotion de l'industrie, qui est une banque de développement, et qui intervient là où les banques commerciales, pour des raisons purement commerciales, ne veulent pas intervenir, mais où nos gouvernements, nous estimons que nous devons assurer un développement financier et industriel. Et donc, les entreprises qui vont rester établissements publics, celles-là connaîtront toujours les orientations, le contrôle et la supervision de l'État. Les autres vont devenir des sociétés marchandes, et devenant des sociétés marchandes, eh bien, nous verrons quel type de gestion doit intervenir dans ces entreprises-là pour qu'elles soient compétitives, performantes, et qu'elles répondent en termes de services aux attentes des Congolais.
Le grand témoin.
Madame, combien de temps vous passez à la maison, à part le travail, de traiter des dossiers au ministère? Vous avez quand même beaucoup de temps à la maison?
Oui, comme tout le monde. En fait, je suis quelqu'un d'assez casanier, donc ma route est très simple. Je travaille comme beaucoup de femmes congolaises, et puis le soir, je suis chez moi, je m'occupe de ma maison.
Voilà, on va prendre quelqu'un pour joindre un peu l'utile à l'agréable. Alors, nous avons en ligne Célestin Vounabandi. Célestin Vounabandi, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur. Vous avez été vous-même au ministère de portefeuille, et puis vous avez cédé le fauteuil à Balamagué en colo.
Vous venez d'entendre un peu ce qu'on a dit avec Madame Mabunda, qui est maintenant au ministère de portefeuille. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à votre successeur?
Oh, je suis avec beaucoup d'intérêt ce que Madame la ministre vient de dire. Le ministère du portefeuille est un ministère très important au sein du gouvernement. Pour être bien géré, certainement, si j'avais un conseil à lui donner, c'est de partir de tout sentiment partisan et de toute influence politicienne. C'est un ministère qui exige beaucoup de calme et de sérénité dans la prise de décision. Et là-dessus, je connais très bien Madame Janine Mabunda. C'est une femme très intelligente, une femme de caractère, une très bonne gestionnaire. Elle a prouvé à la tête du SPI qu'elle a très bien dirigé. Et donc, je n'ai pas de doute que Madame Janine Mabunda pourra très très bien gérer ce ministère. Et pour ma part, je ne peux que lui souhaiter bonne chance et beaucoup de réussite, en tout cas, et peut-être garantie de l'appui que nous pourrons lui apporter si nécessaire.
Voilà, est-ce que vous voulez bien arroser ce souhait par un morceau de musique, peut-être qu'on va faire écouter à Madame?
Oh là là, une bonne surprise, bon, mais je peux proposer une chanson, Cri du cœur, plutôt Cri du Congo. Cri du Congo, c'est une chanson qui a été chantée par un collectif de musiciens congolais. Je crois que nous, les politiciens, c'est le plus assez chanceux. C'est pourquoi donc je propose la chanson à Madame Janine et à aux auditeurs. Merci.
Ah oui, merci beaucoup. Alors, on va écouter un peu cette chanson. Mais avant, Madame, vous vouliez peut-être dire quelque chose à Monsieur Célestin Vounabandi?
Oui, en tout cas, je parle à mon ancien patron. Donc, je sais comment il est non-partisan, très rigoureux, très sévère, mais parfois pour le bien de l'entreprise. Je sais en tout cas qu'il dit quelque chose de très profond quand il dit qu'il faut se débarrasser de tout processus ou de toute analyse partisane. Et je pense que c'est un beau témoignage, surtout sur Radio Capi, de voir un ministre du portefeuille du RCD succédé par un ministre du portefeuille du PPRD et qui peuvent parler ensemble pour l'intérêt de la nation. Donc je pense que c'était un choix audacieux, mais c'est un choix que j'assume et que j'apprécie en tout cas, puisque c'est vous qui l'avez fait.
Alors c'est un choix pour le bien de tous les Congolais. On va écouter Cri du Congo, mais quelques minutes, parce qu'on va libérer quand même Madame.
Sobana ya kongo
Voilà, il nous reste une minute, on va quand même libérer madame, mais Club du Congo qu'on vient d'écouter, vous auriez peut-être vous souhaité que ce soit le Kwakanza, Kofi Olomide ou Fally Ipupa. Ce sont les musiciens que vous aimez.
Oui, tout à fait, je l'ai dit tout à l'heure.
Voilà. Merci beaucoup, Grand Témoin, qui recevait pour vous Jeannine Mabunda Lioko Mugiai, ministre du portefeuille. Merci encore une fois à Madame la ministre d'avoir accepté notre invitation. Grand Témoin, vous fixe rendez-vous demain, même heure, et toujours sur Radio Okapi. Et Okapi Matin continue avec Donna Madimba.
Merci.